Bienvenue au podcast Sac du Cœur. Mon nom est Didier Méjuste. Cette semaine, oui, exceptionnellement, bien, on enregistre le podcast lors de la journée de mercredi. Habituellement, le podcast est mis en ligne le mardi, mais étant donné que je vais couvrir l'entraînement des Alouettes de Montréal, eh bien, mardi, eh bien, on enregistre le podcast aujourd'hui. Mon invité sera justement l'ancien receveur de passe des Alouettes et collègue ici à RDS, Danny Desriveaux, en compagnie de Danny. Bien, on va parler des Alouettes pour qui bien, les choses augurent très bien à la suite de leur victoire de la semaine dernière contre les Tiger Cats de Hamilton. On va également jaser bon, de ce qui retient notre attention actuellement du côté de la NFL. Jeudi soir, ça va être le début déjà de la quatrième semaine d'activité. Puis ça va commencer avec un bon match. Hein, les Bengals qui vont croiser le fer avec les Dolphins. Et la rencontre sera bien sûr présentée sur les ondes de RDS. On va terminer l'épisode du podcast en beauté, comme on le fait à toutes les semaines. Marc-André Chaloux va venir faire son tour afin de jaser de fantasy football. Mais tout d'abord, on accueille Danny Desriveaux. Afin de parler des Alouettes, Danny, ça a été bon, une belle victoire, une victoire importante pour les Alouettes vendredi soir dernier contre les Tiger Cats du Hamilton, parce que virtuellement, ils ont anéanti les chances des Tiger Cats de participer aux éliminatoires. Il ne reste que 5 matchs au calendrier régulier des hommes de Danny Machocha et ils ont 4 points d'avance au deuxième rang de la section Est sur les Tiger Cats de Hamilton. Alors, écoute, à moins d'une implosion complète lors des 5 derniers matchs, les Alouettes devraient participer aux éliminatoires. Et lors de l'entraînement de mardi, bien, bonne nouvelle, William Stambach a préparé son premier entraînement depuis qu'il a subi une fracture à une cheville lors de la première semaine d'activité. Il ne jouera pas samedi à Edmonton, mais on espère du côté de l'organisation montréalaise, du moins on croit même qu'il sera en mesure d'effectuer un retour au jeu, oui, lundi le 10 octobre contre le Rouge et Noir d'Ottawa. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il me semble pour le moment les choses augurent bien pour les Alouettes afin de se tailler une place, bien sûr, lors des matchs d'après-saison.
Oui, tu as raison, Didier. Les Alouettes sont vraiment en train de se positionner de très bonne façon là, pour participer aux éliminatoires. C'est ce qu'on veut là, quand on joue dans la Ligue canadienne. On veut se donner une opportunité, peu importe comment la saison va commencer. On veut se donner une opportunité en fin de saison de participer aux éliminatoires puis d'espérer que les choses cliquent, on joue mieux, on gagne de la confiance, du momentum puis on est capable de coller quelques victoires, une à la suite de l'autre, là, pour se donner une chance de soulever le trophée. Mais comme tu dis, là, c'est une victoire qui était très importante à cause des enjeux. De qu'est-ce qui se passe dans l'Ouest? On savait potentiellement 4 équipes dans l'Ouest qui vont participer aux éliminatoires. Avec qu'est-ce qui va se passer avec Saskatchewan, ça reste à voir. Mais la deuxième place dans l'Est était très importante à sécuriser. Puis non seulement j'ai l'impression qu'on a sécurisé la deuxième place dans l'Est, mais j'ai l'impression qu'on se donne une chance peut-être d'aspirer à aller voler la première place à Toronto. C'est par rapport à, c'est quand je regarde la cédule des 5 prochains matchs qui s'en vient, c'est Edmonton, Ottawa 2 fois avant d'affronter Toronto les 2 derniers matchs de la saison, le retour de Stambach. Je regarde la cédule de Toronto qui doit affronter Calgary, qui doit affronter Colombie-Britannique. Donc, je pense que la défensive joue un peu mieux, Trevor Harris joue un peu mieux. Je pense qu'on se positionne ou est-ce qu'on a une opportunité d'aspirer peut-être à avoir la première place dans l'Est?
Oui, écoute, c'est une chose que j'ai aimé de la victoire des Alouettes contre les Tiger Cats, c'est que finalement, ils ne se sont pas compliqués la vie parce que depuis le début de la saison, c'est ce qu'on voit là, du côté des Alouettes. Lorsqu'on a des opportunités, c'est ça, on se complique la vie. Là, ça aurait été le cas si on avait perdu contre les Tiger Cats. On avait une opportunité de virtuellement, comme je le disais tout à l'heure, d'enlever toute chance à Hamilton de participer aux éliminatoires. On a été en mesure de saisir cette opportunité-là. Tu as parlé du calendrier facile qui s'en vient pour les hommes de Danny Machocha. C'est déjà de voir justement, est-ce qu'on va pouvoir profiter de ce calendrier facile-là? Edmonton avait vaincu Montréal cet été. Souviens-toi, c'était le premier match à la suite du congédiement de Cary Jones. On se disait, bon, ben ça y est, la table est mise pour les Alouettes. Ils vont recevoir la pire équipe de la Ligue canadienne, du moins la pire équipe de la section Ouest à domicile. Premier match de Danny Machocha à la barre de l'équipe. Écoute, on prenait pour acquis que les Alouettes allaient gagner, puis là, qu'est-ce qui est arrivé? On s'est fait surprendre par Edmonton. Et puis Edmonton joue même mieux la formation d'Edmonton qu'elle ne jouait à ce moment-là de la saison. Alors, écoute, on peut pas prendre ça à la légère, cette visite au Commonwealth Stadium, d'autant plus que les Elks, ils tentent de mettre fin Une vilaine séquence à domicile. Écoute, quoi, ils n'ont pas gagné un match à domicile depuis la saison 2019. Oui, je sais qu'il n'y a pas de saison 2020, mais quand même, ça n'a pas de bon sens. Donc, il faut se méfier des Hawks quand même. En tout cas, toi, qu'est-ce que tu en penses?
Ben, comme toute équipe dans la Ligue canadienne, si tu ne te pointes pas à un match et tu penses que c'est gagné d'avance à cause de ce qui se passe sur la fiche des statistiques, les aliments, etc., c'est sûr que tu vas avoir une surprise. Mais tu sais, j'ai l'impression que les Alouettes demeurent quand même une meilleure équipe que les Elks. C'est une équipe dominait, même le match qu'on a perdu à domicile là, contre les Elks, c'était 31-12, si je me trompe pas, là, en deuxième demi, puis ils l'ont échappé à cause d'un passage à vide, puis une remontée incroyable là, d'un carrière qui jouait son premier départ dans la saison 2022. Donc, j'ai l'impression que ça va être une équipe qui va aller là en mode alerte, averti que si on joue pas un bon match, ils peuvent l'échapper. Puis je pense que, moi, je l'espère que les Alouettes réalisent qu'il y a une opportunité de profiter de la césure la fin de saison pour bien se positionner pour la fin. Donc, j'espère qu'ils vont en profiter et qu'ils vont apprendre des erreurs des semaines du passé.
Oui, c'est vraiment souhaité. Il y a le maraudeur Marc-Antoine Decoy qui devrait être de retour au jeu. Il a repris l'entraînement. On sait qu'il avait obtenu congé la semaine dernière à la suite du décès de sa mère. Alors, il était là lors de l'entraînement de mardi des Alouettes. Et on sera privé des services de Nick Archer pendant plusieurs semaines. Hein. C'est ce que Danny Machocha nous a dit après la séance d'entraînement de mardi. Archer a subi une vilaine blessure à un genou. Il doit passer d'autres examens. Bon, ça, c'est malheureux, mais la bonne nouvelle, au moins, c'est que Jamal Davis est de retour. Il a réussi un sac contre les Tigers Cats Hamilton et Davis s'est entraîné au sein de la formation partante lors de l'entraînement de mardi. Alors, écoute, on va voir si les Alouettes vont pouvoir livrer la marchandise, comme tu dis, s'ils vont pouvoir saisir l'opportunité qui se présente à eux en rendant visite au Elks Hamilton. La rencontre aura lieu à 16h samedi après-midi. Et bien sûr, elle sera diffusée sur les ondes de RDS dès 15h30 avec l'émission d'avant-match. On va se tourner du côté de la NFL, Danny, parce que, comme je le disais, jeudi soir, ça va déjà être la quatrième semaine d'activité qui va commencer. J'aimerais qu'on commence en parlant de ton club, les Cowboys de Dallas. Je ne vais pas te cacher, je l'avais dit durant le podcast, après la première semaine, j'avais déclaré que la saison des Cowboys était terminée. Bon, c'était un peu un overreaction, comme on dit, une réaction excessive, là, parce qu'un match ne fait pas une saison, mais à la suite de la blessure à Dak Prescott, je me disais, mon Dieu, comment on va faire pour marquer des points? Mais il me semble que du côté de Dallas, on a trouvé une formule. Le jeu au sol et la défense qui excellent depuis le début de la saison. Et Cooper Rush, là, qui a maintenant une fiche de 3 victoires, aucune défaite à titre de carrière partant dans la NFL. Je cède la place, vas-y, c'est ton équipe, je t'ai vu sourire à pleines dents déjà. Bon, tu dois être comblé comme le reste des partisans des Cowboys, mais honnêtement, est-ce que tu t'attendais à ça, là, qu'on ait une fiche de 2 victoires et aucune défaite sans Dak Prescott?
Absolument pas, Didier. Je dois être bien honnête avec toi. Moi, j'avais déjà mis une croix sur la saison 2022. J'avais passé à 2023 Sean Payton. On préparait l'après McCarthy. Puis là, je vois qu'on remporte les deux derniers matchs. Puis comme tu dis, avec une nouvelle recette, Cooper Rush qui remplace l'homme à 40 millions de dollars puis qui la manière de remporter 2 matchs contre Cincinnati, une bonne équipe qui a des problèmes. Mais tu sais, contre les Giants, qui n'était pas une très bonne équipe, mais une équipe qui aurait pu les battre si jamais il n'y avait pas bien performé. Puis c'est comme tu dis, c'est une nouvelle recette avec le jeu au sol, la défensive qui continue de bien jouer avec la pression sur les carrières, les revirements au bon moment. Qu'est-ce que je trouve le plus intéressant dans tout ça, c'est quand tu es offensivement du côté des Cowboys, on n'a pas ajouté du talent, on n'a pas changé les receveurs, tu sais, puis tout d'un coup, Cooper Rush est capable de faire avancer les chaînons, ce que Dak Prescott n'était pas capable de faire la semaine numéro 1. Puis c'est comme si le coordinateur offensif n'est plus obligé de n'a pas la pression d'être obligé de passer l'attaque à travers Dak Prescott. Donc, tu t'appelles ton plan de match d'une manière différente, tu es plus balancé, tu es plus diversifié, tu t'appelles plus qu'est-ce que tu vois à la place d'avoir la pression de dire, il faut que ça passe par mon homme de 40 millions de dollars, même si les receveurs n'ont pas découvert, ne font pas des jeux. Fait qu'on voit que le jeu au sol est beaucoup plus diversifié, beaucoup plus utilisé. Puis ça aide aussi un carrière comme Cooper Rush, puis le temps de possession, puis ça donne l'opportunité à la défensive d'être reposée, puis de faire les jeux qu'on a besoin de faire. Donc oui, je suis surpris. J'espère que ça va se continuer. Mais c'est quand même Cooper Rush. On joue quand même dans la division S. Fait que j'ai l'impression que contre Philadelphie, est-ce qu'on peut espérer avoir le même genre de résultat? Difficile d'y croire, mais somme toute, 2 victoires, aucune défaite sans Dak Prescott. C'est pour leur donner ça. Ils ont été capables de remporter des matchs sans Dak.
Oui, écoute, j'espère qu'on va garder cette recette-là, même lorsque Prescott va revenir au jeu. Écoute, Michael Parsons qui continue là, son excellent début de saison du côté de la défense. DeMarcus Lawrence qui a récolté 3 sacs du quart contre les Giants de New York. Parce que j'ai hâte de voir la suite des choses du côté des Cowboys de Dallas. Écoute, Dallas va recevoir Washington dimanche. Alors, ça va être une opportunité là, pour les Cowboys de poursuivre leur séquence victorieuse. Je sais que ce sont des rivaux de section, mais quand même, les Commanders jouent tellement mal présentement. Alors, j'ose croire que les Cowboys seront en mesure de l'emporter. Et puis, il y a Dak Prescott, lui, qui disait qu'il pensait peut-être même être de retour au jeu dès cette semaine. Ça reste à voir. Je pense que du côté de l'organisation, j'espère qu'on va mettre un frein à ça, afin de s'assurer qu'il soit vraiment remis de son intervention chirurgicale un pouce. Et comme tu as mentionné, Cooper Rush qui joue bien. Puis les Cowboys auraient pu l'emporter par même plus si CeeDee Lamb n'avait pas échappé une longue passe de Rush, une opportunité ratée. Bref, ça augure bien pour les Cowboys, mais étant donné que c'est Dallas, je regarde toujours un peu de réserve, et surtout avec Mike McCarthy à la barre de l'équipe. Les Colts d'Indianapolis ont causé une surprise en défaisant les Chiefs de Kansas City à domicile. Les Chiefs ont donné le match aux Colts. Il y a eu tellement de cafouillages sur les unités spéciales. Ça a commencé dès le premier botté de dégagement de la rencontre. Sky Moore, la recrue, retourneur de botté des Chiefs, qui a échappé le ballon. Ensuite de ça, Kansas City a raté une tentative de placement. Et inexplicablement, lorsqu'on s'est retrouvé en tentative de botté de précision, ben Andy Reid a décidé d'y aller d'un jeu truqué qui n'a pas fonctionné. Puis, on a perdu par 3 points au bout du compte. Donc, clairement, tous ces jeux-là ont fait la différence. Mais ma question pour toi, est-ce que les Colts ont relancé leur saison avec cette victoire contre Kansas City puisque c'était leur première de la saison?
Ouais, peu importe si c'est on identifie ce match-là comme une victoire des Colts ou un match échappé de Kansas City, ça demeure une victoire des Colts contre un adversaire redoutable, une bonne équipe qui est Kansas City. Donc, eux, ils rentrent à la maison, les Colts, puis ils disent on vient de battre une bonne équipe, on vient de relancer notre saison. Fait que je pense que, du point de vue des Colts, ils vont dire oui, c'est la victoire qui va faire en sorte qu'on reprend confiance, on relance notre saison. Mais j'ai vraiment l'impression que c'était vraiment en toute vérité. Là, ça a vraiment été plus un match échappé de la part de Kansas City. T'sais, qu'est-ce que j'ai vu à la fin de la première demi? C'est la dispute entre Patrick Mahomes, c'est son coordinateur offensif, c'est la production offensive en deuxième demi. Les ratés, c'est botté de placement raté. Andy Reid, qui va en 4e-10, demande à son botteur de courir vers la gauche, il est droitier, de lancer une passe. C'est difficile pour même les carrières professionnelles, puis là, tu demandes à ton botteur d'exécuter cette stratégie-là. On ne s'aide pas le cafouillage sur les unités spéciales qui a donné un terrain court aux causes qui leur a permis de faire des points, c'est l'interception à la fin du match aussi. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'est plus un match qui a été échappé de la part de Kansas City, qui va avoir donné de l'espoir à la saison des Colts.
Ouais, non, écoute, je suis entièrement d'accord avec toi. Et en plus de ça, écoute, Patrick Mahomes, il avait raison, là. Lorsqu'il s'est engueulé avec Eric Bieniemy, le coordinateur à l'attaque, lui, ce qu'il souhaitait, c'est que les Chiefs soient plus agressifs à la fin de la demi. Il restait une 40aine de secondes lorsqu'ils ont pris possession du ballon. On a décidé d'écouler le temps du côté des Chiefs et c'est ça qui n'a pas fait l'affaire de Mahomes. Lui, il souhaitait être agressif pour peut-être être en mesure de réussir un botté de précision avant de retraiter au vestiaire. Vraiment, on a perdu par 3 points, donc il avait raison. Donc, c'est pour ça, là, toutes ces choses-là, ensemble, font en sorte que les Chiefs sont échappés ce match-là. Mais bon, tant mieux pour les Colts, mais les Colts, écoute, je ne suis pas convaincu. Là, on va parler d'une autre formation. Ils ne sont pas l'équipe à battre du côté de la section sud de l'Américaine. On va en parler un petit peu plus tard. Maintenant, il reste seulement 2 équipes invaincues. Ça, c'est un peu un fait inusité. Écoute, on n'a même pas encore commencé la 4e semaine d'activité, puis il reste juste 2 équipes invaincues. Il s'agit des Dolphins de Miami et des Eagles de Philadelphie. Laquelle de ces 2 formations t'impressionne le plus depuis le début de la saison?
Ben, pour moi, c'est définitivement Miami pour plusieurs raisons. Je pense qu'une des raisons on parle pas assez, c'est le fait que c'est vraiment la première année que tous ces éléments-là sont ensemble. On a fait plusieurs changements. On a amené des nouveaux joueurs pour l'unité offensive. On a amené un nouvel entraîneur. Et on a Tua qui a entamé sa 3e année. Fait que de voir tout le monde performer aussi bien dans la première année d'une combinaison, tout le monde ensemble, ça, c'est très surprenant. Des fois, ça prend quelques semaines, 1 an, 2 ans avant de dire, ben, tout le monde est capable de geler ensemble et de performer. La cédule aussi me fait pencher vers les Dolphins de Miami. Ils ont affronté les Patriots, match de division, ils ont affronté les Dolphins, les Bills, match de division, ils ont affronté Baltimore, ils sont revenus de l'arrière contre 2 adversaires, des bonnes équipes contre Baltimore et contre Miami. contre Baltimore contre Buffalo, pardon. Donc, pour moi, c'est vraiment plus Miami qui m'impressionne là, que les Eagles en début de saison.
Oui, je suis d'accord avec toi pour toutes les raisons que tu as mentionnées. Écoute, Mike McDaniel, le nouvel entraîneur-chef des Dolphins, ne pouvait pas demander un meilleur début de carrière. Il a battu depuis le début de la saison Bill Belichick, John Harbaugh et Sean McDermott, trois des meilleurs entraîneurs-chefs de la NFL. Alors, écoute, c'est vraiment tout un début pour lui. Alors que du côté des Eagles, écoute, là, je peux les voir participer au Super Bowl. Je sais que ça paraît peut-être gros de dire ça, surtout lorsque tu regardes leur calendrier. Ils font partie de la section S de la Nationale, qui est quand même faible. Les Eagles pourraient se rendre au Super Bowl parce que c'est vraiment une équipe complète, là, toutes les positions. On avait des questions concernant Jalen Hurts. J'en ai toujours. Il joue très bien. Il a vraiment démontré de l'amélioration. Mais j'ai hâte de voir de quelle façon il va jouer lorsque si Philadelphie se retrouve à tirer de l'arrière à un moment donné. Si on doit jouer du football de rattrapage, parce que là, les Eagles, depuis le début de la saison, ils explosent les formations adverses lors de la première demi, ce qui fait en sorte qu'on joue avec l'avance. Et tu sais, c'est toujours plus facile de jouer avec l'avance que lorsqu'on tire de l'arrière. Alors, lorsque on va vraiment devoir passer le ballon, lorsque la défense adverse va savoir que les Eagles doivent passer le ballon, est-ce que Jalen Hurts sera en mesure de répondre à l'appel un peu comme ça avait été le cas lors du match éliminatoire contre les Buccaneers de Tampa Bay. On avait vu que Hurts était limité en tant que passeur, mais il semble être amélioré. Mais ça, c'est un test que j'ai hâte de voir. Je porte attention là, lorsque les Eagles vont tirer de l'arrière, comment Jalen Hurts va se comporter. Mais pour l'instant, ben, tout va bien à Philadelphie. Puis là, il y a deux équipes qui sont toujours sans victoire, seulement deux équipes. Il y en a une, c'est vraiment une surprise. Les Raiders, qui ont dossier d'aucune victoire et trois défaites. L'autre formation, il s'agit des Texans de Houston, mais eux, on s'en attendait, les Texans qui ont une fiche de 0-2-1. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas selon toi à Vegas? Comment t'expliques ce mauvais début de saison des Raiders qui avaient participé pourtant aux éliminatoires l'année dernière? Puis malgré le fait qu'on avait une saison là, qui était plus que tumultueuse, c'était rempli de controverses, on avait gardé notre concentration. Mais là, on perd des matchs qu'on aurait pu gagner. Là. Les trois rencontres que les Raiders ont disputées ont été des matchs serrés.
Ouais, puis moi, j'avais prédit que les Raiders allaient finir potentiellement quatrième dans cette division-là, mais j'aurais jamais pu prédire qu'ils auraient commencé la saison aucune victoire, trois défaites. Comment ils ont fini l'année dernière, les améliorations qu'ils ont amenées dans l'entre-saison 2022, entraîneur-chef, le football ops, ils ont ajouté offensivement avec Adams, ils ont ajouté défensivement avec Jones. Mais on dirait qu'en début de saison, c'est le genre d'équipe qui trouve des manières différentes de perdre des matchs à la place de trouver des manières de remporter des matchs. Tu regardes la séquence, il y a deux matchs où ils ont eu des lents départs, où on tirait de l'arrière tout dans le match, on est incapable de remonter. On a un match où on mène 20-0, puis on trouve le moyen de perdre contre Arizona en fin de match. On a ajouté Chandler Jones, 3 ans, plus de 50 millions de dollars, aucun sac du corps en 3 matchs. Ils ne sont pas capables de mettre la pression. T'as Crosby de l'autre côté à qui on disait Crosby, Jones, des deux côtés, ça va mener à plein de sacs du corps. On est incapable de produire de la pression sur les carrières adverses. Donc, c'est une équipe là qui tarde à se placer et à performer au niveau des attentes, parce que ça aurait dû être une équipe améliorée du visage qu'on avait l'année dernière.
Oui, puis un des problèmes, c'est au niveau de la ligne à l'attaque, je pense, en termes de protection, en termes de créer des brèches pour le jeu au sol. Mais une chose qui rattrape les Raiders, j'en parlais en dehors des ondes avec Mathieu Proulx et Bruno lundi, c'est tous les mauvais repêchages qu'on a eus sous John Gruden et Mike Mayock. Ça rattrape l'équipe. Écoute, il y a combien des choix de première ronde là, de ce régime-là qui ne sont plus avec l'équipe? Mm-hmm. Leur premier choix de l'année dernière, en 2021, le bloqueur à droite, Alex Leatherwood, le nouveau régime l'a évalué durant le camp, on a décidé de le libérer. Puis ça rattrape l'équipe. Tout ça, tu sais, Damon Arnett qui n'est plus là, Henry Ruggs qui n'est plus là non plus, qui est un joueur explosif pour l'attaque. Alors tout ça rattrape la formation de Las Vegas. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Je sais que le propriétaire Mark Davis a rencontré Josh McDaniels après la défaite afin d'avoir un compte-rendu de qu'est-ce qui se passe. Mais c'est vraiment pas un beau début pour McDaniels. D'ailleurs, à ses 25 derniers matchs à titre d'entraîneur-chef, Josh McDaniels se remonte à l'époque où il avait été entraîneur-chef avec les Broncos de Denver. Ça affiche 5 victoires et 20 défaites. Alors, imagine-toi. En tout cas, on va voir si on va être en mesure de se replacer du côté les Raiders, mais c'est vraiment mal commencé. Tout à l'heure, on parlait de la section sud de l'Américaine. Je te disais que les Colts, bon, ils sont clairement plus les favoris afin de terminer au premier rang, mais c'est vraiment une surprise. L'équipe qui joue le mieux au sein de cette division-là, ben, ce sont les Jaguars de Jacksonville, sont allés au SoFi Stadium. Ils ont donné une raclée aux Chargers. Les Chargers sont très amochés. Justin Herbert joue en dépit d'une blessure aux côtes. On a perdu les services de notre bloqueur à gauche au cours de la rencontre. Mais bref, est-ce que les Jaguars sont à prendre au sérieux selon toi? Parce que pour moi, il n'y a aucun doute que la réponse est oui.
Ben, je suis d'accord avec toi, puis parce que tous les éléments sont là. On a du talent sur le terrain. On a finalement un bon chef qui met ces morceaux-là ensemble avec Doug Peterson. Si tu regardes la composition de l'alignement, c'est Trevor Lawrence, il joue d'une manière améliorée, en confiance. Il a l'air beaucoup mieux préparé. Il exécute l'attaque d'une meilleure manière. Les porteurs de ballon, Robinson et Tim, qui fait un retour au jeu. Fait que ça aide. On a armé Trevor Lawrence de receveurs de passes. C'est Kirk. Les deux Jones font des jeux pour lui. Puis aussi défensivement. T'sais, qu'est-ce qu'ils ont ajouté défensivement au repêchage? Là, ils ont été 2-2 avec leur choix de première ronde. Puis tu vois les recettes là, de cette évaluation de talent, de positionnement de ces joueurs-là dans le système. Et ça porte fruit. Donc, les Jaguars n'ont pas à s'excuser pour qu'est-ce qui se passe du côté des Chargers en termes de blessures. Puis qu'est-ce qui se passe, eux? C'est les joueurs qui sont sur le terrain devant eux autres qui doivent battre, qui doivent accoler des victoires. Puis moi, j'y crois. C'est une jeune équipe qui prend confiance. Mais là, par contre, pour Jacksonville, il y a un gros test qui s'en vient. C'est là, je pense qu'ils jouent contre Philadelphie leur prochain match. Fait que là, ils vont vraiment avoir un test. Parce que là, c'est une équipe qui gagne en confiance. Fait que est-ce qu'ils vont se projeter? Est-ce qu'ils vont se sentir tellement en confiance qu'ils peuvent battre n'importe qui? Ou vont continuer à faire la même recette, arriver dans les matchs humblement, puis exécuter sur le terrain? J'ai hâte de voir, parce que des fois, les jeunes équipes, des fois, ça projette très rapidement là, par rapport à quand ils commencent à avoir du succès.
Oui, Jaguars qui vont visiter les Eagles dimanche à 13h. Ça, c'est un match que j'ai vraiment hâte de voir parce que tu sais quoi? Les Jaguars peuvent donner du trouble à Philadelphie. Je suis convaincu de ça à cause de la ligne défensive. Les Eagles misent sur une des meilleures lignes à l'attaque de la NFL. Donc, si tu veux ralentir Philadelphie, si tu as des chances de battre les Eagles, tu dois avoir une bonne ligne défensive. Et les Jaguars, ils ont ça. L'année dernière, cette ligne défensive-là, elle avait causé des ennuis à certaines équipes. Tu sais, avec Josh Allen, John Franklin Myers, Trevon Walker, le tout premier choix du dernier repêchage. Dans le front, tu as Devon Lloyd à position secondaire de ligne. Il aurait dû être un choix première ronde. Il a connu tout un match la semaine dernière. Il était partout sur le terrain contre les Chargers. C'est un problème. Ce front défensif-là est un problème pour les attaques adverses. Donc, j'ai bien hâte de voir ça, le match entre les Jaguars et les Eagles. Mais que dire également de Trevor Lawrence? Tu as parlé de la présence de Doug Peterson. Là, Lawrence, on revoit le carrière qu'on avait vu à Clemson. J'étais tellement inquiet l'année dernière. Sur Urban Meyer, je me disais, bon, ça y est, ils vont ruiner sa carrière. Mais là, il a complété 3 passes de toucher à Los Angeles contre aucune interception. Et on mise peut-être sur ce qui est en train de devenir possiblement le meilleur duo de porteurs de ballon de la NFL. Là. Écoute, ça fait longtemps que ce titre-là revient à Nick Chubb et Kareem Hunt à Cleveland. Mais le duo de Travis Etienne et de James Robinson, ça aussi, c'est un problème pour les défenses adverses. Alors, j'aime ce que je vois de la part des Jaguars. Je crois qu'ils sont à prendre au sérieux. Et écoute, après 3 semaines, moi, j'avais choisi les Colts, ça fait terminer au premier rang de la section. Peut-être que je devrais pas changer mon choix, mais je vais le faire. Je vais choisir Jacksonville. Moi, j'y crois à cette édition-là des Jaguars de Jacksonville, parce qu'il y a du talent au sein de cette équipe-là, et surtout, on est mieux coaché maintenant. Tu as parlé de la saison morte, toutes les acquisitions, que ce soit via le marché des joueurs autonomes, avec Christian Kirk, le repêchage. Écoute, on a apporté du talent, on s'est pas trompé dans les joueurs à qui on a donné des contrats, les joueurs qu'on a repêchés. Alors, on est une formation améliorée, en tout cas. Bien de voir ça, Jaguars, Eagles, si tu m'avais dit ça il y a un mois, je n'aurais jamais cru. Mais là, c'est possiblement l'affrontement de la semaine qui va avoir lieu à Philadelphie. Les Eagles de Philadelphie, justement, ils ont facilement défait les Commanders de Washington. Mais ce qu'on a retenu, ça a été la performance de Benjamin Saint-Just, hein? Utilisé à toutes les sauces, le demi-défensif montréalais. Il a eu à courir Devante Smith, A.J. Brown, qui est un des meilleurs receveurs de la NFL. Et il s'est très bien débrouillé. D'ailleurs, sur ma page Instagram, j'ai publié là 2 jeux que tu avais décortiqués lundi soir de Benjamin afin de démontrer bon, ses talents en couverture homme à homme. Qu'est-ce que tu as pensé de sa performance? Il a terminé le match avec 3 passes rabattues. Oui, il a concédé un touché, mais bon, avec l'alignement, avec le choix de stratégie qu'on avait utilisé du côté des Eagles de Philadelphie, c'est pas vraiment de sa faute. Là. Il n'était pas positionné pour connaître du succès à la porte de la zone des buts.
Ouais, mais c'est sûr que si tu joues demi-défensif dans la NFL, tu affrontes des bons receveurs, forcément, ça va arriver que tu vas te faire battre. C'est la nature de l'environnement. Et qu'est-ce qu'on veut vraiment voir, c'est comment il réagit quand il se fait mettre au défi contre les meilleurs receveurs, quand on semble peut-être l'attaquer parce qu'on sent qu'on est capable d'avoir l'avantage. Moi, je vois un Benjamin Saint-Just qui gagne en confiance, qui a confiance en ses habiletés, qui a confiance en son aspect technique. Puis il n'a pas peur du receveur qui est devant lui, peu importe c'est qui. Que ce soit A.J. Brown, un pro bowler, un homme à 25 millions de dollars, que ce soit Devante Smith, un gars qui a remporté le Heisman. Tu vois pas un Ben Saint-Just qui est un joueur de deuxième année, un choix de troisième ronde, qui panique, tu sais, qui est nerveux, tu sais, qui perd ses moyens dans ces situations-là. Puis, tu le vois sur le terrain, tu le vois sur le film. Tu sais, fait que quand tu évalues la vidéo en tant qu'entraîneur, tu regardes pas juste le jeu où est-ce qu'il va, tu regardes chaque séquence où est-ce qu'il a été sur le terrain, puis tu l'évalues sur ces séquences-là. Puis il y a plusieurs séquences où est-ce que, d'après moi, il y a eu des notes très positives, très encourageantes à cause de comment il joue, sa technique, sa reconnaissance des situations. C'est moi vraiment être impressionné par ça. C'est le troisième essai, tu joues très bien les marqueurs, tu es dans la situation près de la zone de but. Tu peux miser sur le fait que tu es 6 pieds 3, tu sais, ça va être très difficile pour les carrières de lancer par-dessus toi. Tu peux jouer en dessous des receveurs. Donc pour moi, là, c'est très mature, c'est très avancé en termes de développement psychologique, stratégique là, pour un jeune demi-défensif qui continue à développer, qui continue à progresser, mais c'est décidément positif. Il gagne en confiance, il progresse à chaque semaine. Puis il mène son équipe en passe rabattue. Donc, ça aussi, c'est encourageant. Il trouve le moyen de rabattre des jeux, rabattre des passes au sol là, quand les équipes décident de le tester.
Oui, écoute, ça serait bien si le reste de la défense des Commanders jouait aussi bien que lui. On s'est fait éclater par les Eagles de Philadelphie. L'attaque a accordé 9 sacs du quart contre Carson Wentz. Bref, c'était vraiment une performance à oublier du côté des Commanders. Mais on espère que Benjamin va continuer au moins individuellement à bien jouer comme il le fait depuis le début de la saison. Le moment est venu de dévoiler ta réaction excessive de la semaine à la suite de la troisième semaine d'activité. Allez, Danny, je te cède la place. Quelle est ta réaction excessive, ton overreaction?
Moi, je te dirais que les 49ers de San Francisco vont trouver le moyen de ne pas faire les éliminatoires cette année.
Ah oui? Pourquoi?
J'ai l'impression que la relation Garoppolo, Shanahan, ça sent mauvais. J'ai l'impression que c'est deux individus qui ne s'entendent pas. Je pense que la relation, elle est brisée. Et je pense que un envers l'autre, il n'y a pas d'aspect de confiance. Je pense que Garoppolo, là, sur le cœur, qu'on a essayé de le remplacer. Puis je pense que Shanahan, là, sur le cœur, peut-être qu'il aurait préféré avoir Trey Lance, mais finalement, il est pris avec Garoppolo. Puis j'ai vraiment l'impression que c'est pas une bonne relation, puis ça va mener à des défaites. En plus, là, ils ont perdu Williams, le bloqueur à gauche, pour quelques semaines. J'ai vraiment l'impression que ça ne va pas dans la bonne direction. Puis l'aspect relationnel de la relation entre ton carrière puis ton entraîneur-chef qui appelle les jeux, ça aussi, c'est important. Là. Puis je pense que ça va mener au fait qu'ils vont échapper des matchs puis ils vont trouver le moyen de se sortir des éliminatoires, alors qu'il y a beaucoup qui les voyaient comme une des trois meilleures équipes de la NFL au début de l'année.
Mais pourtant, il y a une semaine à peine, on disait que Jimmy G était le sauveur. Là. Il était à la rescousse des Niners. Donc, on était heureux de pouvoir miser sur lui à la suite de la blessure de Trey Lance. Mais c'est vrai que la performance contre les Broncos, ils ont démontré pourquoi on a repêché Trey Lance, pourquoi on tentait de se départir de Jimmy Garoppolo. Il avait bien commencé la rencontre, mais ensuite ça a été un retour à la normale pour Jimmy G. Mais écoute, Danny, ils n'ont pas le choix, ils n'en ont pas d'autre carrière avec la blessure à Trey Lance. Ils sont prêts que Jimmy G. Écoute, je suis pas prêt à dire qu'ils vont rater les éliminatoires, mais on appelle ça une réaction excessive, un overreaction. Alors, c'est ton droit de penser que les Niners sont dans le trouble. Pour moi, écoute, j'en ai deux overreactions, réactions excessives. Tout d'abord, Robert Saleh, l'entraîneur-chef des Jets de New York, sera congédié à la fin de la saison. Wow. Il n'y aura pas d'amélioration du côté des Jets. OK? Vous savez, bon, ils ont effectué une remontée il y a deux semaines. Comment?
Il a commencé sans son corps, pardon, puis toi, out.
C'est pas grave, pas de pitié, sans pitié, moi, OK? T'as pas ton carrière partant, c'est pas mon problème, OK? Ton équipe doit mieux jouer. Les Cowboys, on vient d'en parler en long et en large. Dak Prescott est pas là, on trouve une façon de gagner. Puis je sais, bon, les Jets sont pas une équipe aussi talentueuse que les Cowboys, mais je vois pas d'amélioration du côté des Jets. Ça fait quoi, 20 matchs que Saleh est à la barre de l'équipe? Et surtout défensivement, il est un ancien coordonnateur. Si on avait des ennuis du côté de l'attaque, mais que la défense progressait, je dirais, OK, au moins, Il y a clairement une progression sur cet aspect-là, mais on ne peut même pas dire ça du côté des Jets. Allons voir quand est-ce que Zach Wilson va revenir, mais si ça continue, si les Jets continuent de jouer de la sorte avec Zach Wilson une fois qu'il va revenir au jeu, moi je pense que ça va en être terminé pour Robert Saleh à New York à la fin de la saison. Si on a une autre saison là, de 4-13 ou avec une fiche de ce genre. Puis, les Chargers ont raté les éliminatoires. OK, ça, c'est ma deuxième réaction excessive de la semaine. Justin Herbert est ennuyé par une blessure au coach. J'ai mentionné tout à l'heure, on a perdu les services de Rashawn Slater, notre bloqueur à gauche, qui avait été sélectionné pour le Pro Bowl l'année dernière lors de son année recrue. Bon, Keenan Allen va revenir au jeu cette semaine. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais on ne court pas avec le ballon, du moins pas avec succès. On a une des pires attaques au sol de la NFL. Là, on a des blessés au niveau de la ligne à attaque. Il nous manque notre centre également depuis quelques semaines. Moi, je ne crois pas en Brandon Staley. Depuis l'année dernière, je le dis, avec sa folie là, de tenter de convertir à des quatrièmes essais. Lui aussi, c'en est un autre qui est un ancien collaborateur en défense. Puis sa défense, elle n'est pas si bonne que ça. On vient d'accorder 38 points aux Jaguars. Ça, c'est malgré toutes les acquisitions qu'on a faites via le marché des joueurs autonomes. Les Chargers, ils vont nous décevoir encore une fois. Ils nous ont déçus plusieurs fois à l'époque de Philip Rivers et tout ça. Je pense que ça va être une continuité encore une fois. Malheureusement, moi qui adore Justin Herbert, c'est pas de sa faute, mais il y a trop blessé là du côté des Chargers. Du moins, ça a été mes deux réactions excessives pour cette semaine. Alors, Danny, écoute, je te remercie de ton passage au podcast. Je sais que tu as un horaire chargé. Alors, écoute, je te souhaite de passer une bonne fin de journée. Et puis, on va se voir de toute façon au cours du week-end. Ça va être un week-end super chargé. Puis il y a 4 matchs qui sont présentés à RDS lors de la journée de dimanche. J'ai parlé tout à l'heure, bon, bien sûr, du match de jeudi qu'on va diffuser entre les Dolphins et les Bengals. Et dimanche matin, il y a un match à Londres, là, en plus. Mm-hmm. Alors, toi, tu vas être en studio avec Andréane. C'est ça, à 9h30 dimanche matin.
Exactement. Je pense que nous, on commence à 1h, mais nous, on est difficilement en ondes là, avec RDS là, à partir de 9h30 pour le premier match. Là, mais on va être plusieurs là, à partager là, la couverture là, de ces 4 matchs-là dimanche.
Ouais, puis ça, c'est sans même mentionner là, le match des Alouettes samedi à Edmonton en après-midi. Donc, on a un gros week-end qui nous attend, toute l'équipe du football mm-hmm. RDS. Ben, Danny, encore une fois, merci. Puis passe une bonne fin de journée. Puis on se reparle, on se voit au cours de la fin de semaine.
Yes, sir. Toujours un plaisir de dire à la prochaine.
Salut. Alors, on va maintenant se tourner du côté du fantasy football parce que c'est très occupé, bien sûr. En début de saison, habituellement, Marc-André, il va là, de ses recommandations pour le waiver wire. Mais là, étant donné qu'on enregistre le podcast mercredi et que le waiver wire est déjà passé, on va se concentrer sur les joueurs que Marc-André cible cette semaine-là. Les joueurs qui, selon lui, devraient faire absolument partie de votre formation partante. Également des joueurs que vous devriez laisser sur le banc. Peut-être qu'ils vont avoir de mauvaises confrontations cette semaine, ou tout simplement qu'ils déçoivent trop depuis le début de la saison. Puis c'est le moment est venu peut-être de passer à un autre appel. Alors, Marc-André, on va commencer avec les carrières. Quel est le joueur à la position de carrière qui, selon toi, doit faire partie de la formation partante si on le compte au sein de notre équipe?
Je pensais jamais prononcer le nom de Jared Goff, mais je vais le faire, Didier. Jared Goff est le carrière numéro 11 après 3 semaines au niveau fantasy, et c'est un peu dur à croire, mais les Lions marquent en moyenne plus de 31 points par match. C'est bon pour le 2e rang dans la NFL en ce moment. Je pense que le plancher de Jared Goff est vraiment excellent cette semaine. Il est un plancher sûr face aux Seahawks de Seattle et à leur piètre tertiaire. C'est sûr. Là, je veux quand même vous dire que c'est possible que Amon-Ra St. Brown ne joue pas. Il a quitté blessé. J'ai essayé d'aller voir de l'information avant d'entrer avec toi, avant mon intervention. Didier, je ne vois rien à ce niveau-là. DeAndre Swift ne jouera pas non plus, mais j'ai confiance en Jamal Williams. J'ai confiance que l'attaque des Lions va être excellente quand même. Et l'affrontement est vraiment intéressant. Et les ingrédients sont là pour que Jared Goff connaisse du succès. Si vous vous faites dans des pools de type DFS, qu'on appelle en anglais, donc des DraftKings, des FanDuel, Josh Reynolds, c'est une bonne option peut-être dans votre flex également. On parle de DJ Chark. Bref, les ingrédients sont là pour que les Lions connaissent du succès. Et je me questionne, si vous avez des carrières qui tardent à se mettre en marche, je pense à Russell Wilson, Tom Brady n'a pas son arsenal de receveurs en ce moment. Ou même si vous cherchez encore un streamer, hein, une solution de très courte durée en l'absence de Dak Prescott, Jared Goff, pour moi, c'est un excellent quart à insérer dans votre formation cette semaine.
Oui, écoute, Jared Goff a du temps pour repérer ses receveurs de passe. Les Lions ont une des bonnes lignes à l'attaque de la NFL. La seule chose qu'on sait de Goff, s'il est bien protégé, il est capable de faire des jeux. On l'avait vu à l'époque lorsqu'il portait les couleurs des Rams. Mais à l'opposé, s'il n'a pas du temps pour repérer ses receveurs, ça va pas bien pour lui. C'est là qu'il commet des bévues. Mais jusqu'à présent, écoute, comme tu as mentionné, tout va bien pour l'attaque, du moins, des Lions.
C'est sûr qu'Amon-Ra St. Brown compte 23 réceptions en trois matchs. Ce serait une lourde perte. Ça, pour vous donner une idée, c'est autant que les Bears de Chicago en trois matchs. Donc, bref, mais ça reste à voir. Je pense qu'on, même si Amon-Ra St. Brown ne joue pas, je pense que les autres receveurs peuvent adéquatement reprendre la relève.
Et l'attaque des Bears, c'est quelque chose. On fait juste courir avec le ballon. Par la passe. J'ai l'impression du côté des Bears, on est conscient qu'on n'a pas de receveur de passe, qu'on n'a pas de ligne à l'attaque. On se dit juste, regarde, on va courir avec le ballon le plus souvent possible. Même si David Montgomery s'est blessé, Khalil Herbert a connu un fort match. Mais mon Dieu, pour Justin Fields, hein. Oui, c'est ça. Mais pour Justin Fields, je ne sais pas comment il peut se développer dans ce contexte-là. Bref, maintenant, qui est ton carrière que tu recommandes de clouer au banc? Pas Justin Fields. Justin Fields, c'est ça, c'est l'évidence même. Si vous avez Justin Fields, je ne sais même pas pourquoi vous l'avez au sein de votre équipe, libérez-le, allez chercher un autre joueur. Mais quelle est la carrière que tu suggères de clouer au banc cette semaine?
Je sais que toi, tu as déjà t'as ta place en première classe dans le train de Trevor Lawrence, mais moi, je rentre dans le train d'idée.
Ouais.
je pèse sur le frein à main, le break à bras. Sur Trevor Lawrence. Oui, il est bon, Trevor Lawrence, depuis trois semaines. Didier était le carrière numéro 4 fantasy lors de la semaine numéro 3 et le carrière numéro 10 après trois semaines. Il est le troisième dans la NFL pour les pourcentages de passes complétées. Ça, c'est le bon. Le moins bon, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est que l'affrontement, c'est que les Jaguars affrontent les Eagles qui sont sixième contre la passe cette semaine. Et on a vu ce que Carson Wentz et Kirk Cousins ont réalisé contre la défense des Eagles. Ça n'a pas été fructueux. Pour moi, je vous dirais peut-être d'attendre une autre semaine dans le cas de Trevor Lawrence. Ce sera un match difficile à l'étranger. C'est le retour de Doug Peterson à Philly. Puis par la suite, le ciel fantasy de Trevor Lawrence s'éclaircit. On parle des Texans, des Colts, des Giants par la suite. Ce sont des bons affrontements. J'attendrai peut-être encore une semaine. Je ne suis pas convaincu par Trevor Lawrence. Attendons une autre semaine. Laissez-le sur votre banc cette semaine.
De la façon que l'association entre Doug Peterson et les Eagles se sont terminées, là, tu peux déjà parier que les Jaguars vont au moins utiliser un jeu truqué au cours de la rencontre. Ça, je suis certain que ça. Là. Mettant la position de... Ah oui, aucun doute là-dessus. Mettant la position de demi à l'attaque, quelles sont tes recommandations? Quel joueur là, qu'il faut faire jouer absolument là, cette semaine?
Un autre joueur des Jaguars, j'ai personnellement James Robinson sur mon banc depuis trois semaines au niveau fantasy. Et les trois premières semaines de la saison, James Robinson...
Tu l'as regretté le dimanche dernier.
Ouais, mais la première semaine 1, 18,9 points, semaine 2, 13,8 et la semaine dernière, 17,60 points fantasy. Donc, mon point ici, c'est un joueur en plus. Pour un joueur, vous avez repêché quoi? 126e en moyenne dans vos repêchages. C'est vraiment, il est l'aubaine. Il est le joueur par excellence fantasy depuis le début de la saison. Il est le receveur, le porteur de ballon numéro 3 au niveau fantasy après trois semaines. Oui, Travis Etienne est encore dans le portrait, mais James Robinson, on l'a vu surtout dimanche, il est explosif. Je pense que ce qu'on appelle, il est un must-start jusqu'à preuve du contraire, peu importe, il est blindé, peu importe l'affrontement, insérer James Robinson, maintenant on peut aller de l'avant avec lui, il va connaître du succès.
Ouais, la présence de Travis Etienne, ne t'inquiète pas, dans le champ arrière des Jaguars?
Pas en ce moment, non.
OK, parfait. Maintenant, quel est le demi à l'attaque que tu recommandes de laisser là, sur les lignes de côté, là, de clou au banc cette semaine?
En fait, c'est un spécial. J'ai deux starts au niveau. Je vous conseille d'insérer un autre porteur de ballon à la position de porteur de ballon. C'est Khalil Herbert. Hein. On vient d'en parler tantôt, Didier. Écoutez, la blessure à David Montgomery la semaine dernière a ouvert la porte à Khalil Herbert et mon Dieu qu'il en a profité. 20 courses, 157 verges, deux touchés. Ça a été vraiment incroyable. Et Les Bears, cette semaine, affrontent les Giants, qui sont 25e dans la NFL contre la course. Donc, l'affrontement est vraiment alléchant. Pour moi, c'est sûr, il faut. J'ai encore, avant mon intervention, j'ai essayé de voir s'il y avait des nouvelles au niveau de l'état de santé de David Montgomery. J'ai rien trouvé encore. Si David Montgomery rate le match, d'après moi, Khalil Herbert est un top 10 au niveau fantasy. L'attaque des Bears, on en a parlé un peu. Je trouve que ça ressemble un peu à l'attaque des Eagles de Nick Sirianni lors de la première année avec Jalen Hurts. On passe pas avec le ballon, on court à outrance. Donc, Khalil Herbert, pour moi, est un ajout nécessaire à insérer dans votre formation si David Montgomery ne joue pas cette semaine.
Oui, comme on a vu sur le tableau, les Giants sont 25e contre la course. On a vu le jeu au sol a vraiment fonctionné lundi soir pour les Cowboys. Tony Pollard et Ezekiel Elliott ont connu de forts matchs au sol contre cette défensive des Giants. Alors, Khalil Herbert, lui, il n'aura pas partagé les portées dans le champ arrière. Alors oui, effectivement, ça pourrait être un bon match pour lui. Mettant la position de receveur de passe, quel receveur retient ton attention?
Chris Olave est le receveur numéro 1 de l'attaque des Saints et c'est même pas proche, spécialement en PPR, ciblé 13 fois la semaine dernière, 9 catchs, 147 verges. C'était vraiment le party, le coming out party de Chris Olave. Il a été ciblé 29 fois en 3 matchs, Didier. Il a 17 catchs pour 268 verges. Et les Saints affrontent cette semaine les Vikings qui accordent en moyenne 275,7 verges par la passe. C'est bon pour le 29e rang dans la NFL. Donc Chris Olave est dans votre formation à tout prix cette semaine.
Et là, la position de receveur, bon, tu nous recommandes un joueur accoué au banc. Il s'agit d'un receveur de passe des Texans.
Ouais. Je pense que je me suis trompé avec ma recommandation pré-saison de Brandon Cook. C'est pas facile pour les Texans. N'importe quel joueur fantasy chez les Texans qui ne s'appelle pas Damien Pierce en ce moment. Brandon Cook, ça a été ciblé 29 fois en 3 matchs. C'est pas ça le problème, Didier. Mais le problème, c'est que tu peux tuer seulement que 13 catchs pour 158 verges. C'est sa plus basse moyenne de verge par cible depuis le début de sa carrière. Et bon, Davis Mills, finalement, c'est très difficile dans son cas. Donc, pour moi, Brandon Cooks est à clouer au banc. Les Texans affrontent les Chargers cette semaine. La défense des Chargers s'est fait dépecer par Trevor Lawrence la semaine dernière. S'il y a un sentiment de fierté au sein de cette défense-là, ben ça serait une bonne occasion de rebondir. Puis laissez donc Brandon Cooks sur votre banc qui ne connaîtra pas un grand match selon moi.
OK, on va voir si tu auras raison dans le cas de M. Cooks. Il est dû pour connaître un bon match. Moi, c'est de la façon que je vois ça, mais.
Il est dû.
Ouais, mais c'est vrai que tu as de bons arguments. Maintenant, à la position des lits rapprochés, j'ai hâte de voir qui tu nous recommandes de faire jouer cette semaine parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix à la position des lits rapprochés depuis le début de la saison, mis à part, bien sûr, bon, une super vedette comme Travis Kelce.
Je vous recommande Tyler Conklin, ailier rapproché des Jets de New York. Pourquoi Conklin? Parce qu'il est l'ailier rapproché qui a couru le plus de tracés dans la NFL depuis le début de la saison. La semaine dernière, il a été ciblé 8 fois. Il a obtenu 8 catches pour 84 verges contre les Bengals. C'est un sommet chez les Jets. Il est utilisé, il est sur le terrain et on sait la position d'ailier rapproché fantasy, c'est souvent difficile. Ce qu'on veut voir, c'est que ton ailier rapproché, il faut qu'il soit sur le terrain. Moi, j'aime ça qu'il soit sur le terrain, qu'il court des tracés de passe. C'est sûr que ce genre de production à la position de les rapprocher pour Tyler Conklin, pour moi, il devient facile à insérer dans la formation. Le seul, je te dirais, facteur X en ce moment, c'est le retour de Zach Wilson. On ne sait pas ça sera quoi la dynamique dans l'attaque avec Zach Wilson. Et le porteur de ballon rapidement, l'ailier rapproché présentement que je vous conseille d'asseoir cette semaine sur votre banc, c'est ouais. Tyler Higbee des Rams. Pourquoi? Parce que les 49ers sont la défense. C'est la meilleure défense contre les alliés rapprochés adverses fantasy depuis le début de la saison.
Oh, OK. Bon, ben parfait. Alors, peut-être si Conklin est disponible au niveau du waiver wire, s'il l'est encore, même après, bien sûr, que le waiver wire est passé, peut-être aller chercher pour une semaine seulement et puis de le faire jouer, parce que je crois pas.
Vas-y, il était devant Cidjo Ouzama au niveau des tracés la semaine dernière. Ouzama revient de blessure, mais pour l'instant, Conklin semble vraiment être un bon outil dans l'attaque des Jets. La piètre attaque des Jets, mais bon.
Oui, non, c'est ça. Tout est relatif. Hein, mais écoute, on n'a pas de joueur productif à la position d'aller rapprocher. Ben, on devient désespéré. Et c'est là qu'on tente une expérience en insérant un joueur comme Conklin au sein de la formation partante.
J'ai ajouté Conklin la semaine dernière et je l'ai fait jouer à la place de Cole Kmet. Et ça a été productif quand même. Ce qu'on veut, c'est pas un zéro.
Donc, Cole Kmet fait toujours partie de ton équipe. Tu n'as pas encore lâché complètement la serviette.
Non.
Tu continues d'y aller avec le Cole Kmet.
C'est le bouc émissaire du sac du corps, Cole Kmet.
Ouais, d'une certaine façon. Ouais, bon, ben, parfait. Ben, écoute, Marc-André, ben oui, puis j'ai oublié de te demander comment ton voyage a été, puisque tu as fait un beau voyage sportif en compagnie là, de certains compagnons du travail.
Oui, on est allé à Denver. On est allé à Denver voir le match du dimanche soir. Au niveau du pointage, c'était pas un bon match, mais au niveau de l'ambiance, vraiment, ben, je recommande à tous et à toutes qui écoutent le podcast. Il y en a beaucoup d'entre vous qui faisaient des voyages de NFL à chaque année et c'est une ambiance vraiment incomparable. On est loin. C'est vraiment. L'ambiance est exceptionnelle. Bon, les Broncos, ça va pas super bien. Les gens commencent peut-être à s'impatienter. Et moi, personnellement, j'ai toujours. J'essaie d'en visiter le plus possible et je ramène des petits casques comme ça, des équipes à chaque fois. Et même, tu sais, si tu veux, j'ai même ceux au niveau universitaire également, comme Penn State. J'ai été à Penn State. Donc, moi, c'est ma façon pour moi de me rappeler mes voyages, puis ça me parle une collection. Mais vraiment, j'invite tout le monde à aller voir, à vivre l'expérience de la NFL. C'est incroyable.
Oui, non, et puis Denver, c'est un des stades absolument les plus bruyants de la NFL. Alors ça, c'est toujours bien là, d'avoir la chance de voir un match là. J'avais eu l'opportunité d'y aller il y a quelques années. Je jouais contre les Panthers de la Caroline. Ça avait été très, très, très bruyant, là, surtout lors des troisièmes essais. À cette époque-là, bon, Von Miller était là, de Marcus Ware aussi. Donc, on avait des excellents chasseurs de quart là, qui profitaient du bruit de la foule, justement, afin d'ajouter des sacs à leur production. Ben, écoute, Marc-André, je te remercie. On a fait le tour. Pour les gens qui téléchargent le podcast ou qui nous regardent sur la chaîne YouTube de RDS, ben, on vous remercie de télécharger le podcast à toutes les semaines. Répandez la bonne nouvelle. Parlez-en à vos amis. Envoyez-leur le lien si vous appréciez le podcast. On se reparle la semaine prochaine.